OK, on va commencer notre 31e leçon dans notre série Le péché, les 10 commandements et la grâce. Aujourd'hui, nous allons voir le 9e commandement de Dieu dans ses deux aspects, ce qui est requis et également ce qui est défendu. On va regarder un petit peu un bref résumé de ce qu'on a vu jusqu'ici dans les commandements. Donc, dans les 4 premiers, on avait vu qu'il concerne nos devoirs envers Dieu lui-même. Le premier commandement de Dieu concerne qui nous devons adorer. Le deuxième commandement de Dieu concerne comment nous devons adorer. Le troisième concerne qui nous devons craindre et ne pas utiliser son nom en vain. Quant au quatrième, c'est le commandement qui nous dit qu'un jour sur 7 lui soit pleinement consacré pour l'adoration, qu'elle soit individuelle, familiale ou collective, et également pour le repos. On sait maintenant que les 6 derniers commandements de Dieu concernent nos devoirs envers notre prochain. Ce sont bien entendu les 6 piliers de l'ordre social. Alors le 5e commandement concerne nos devoirs envers nos parents et les autorités en général. Quant au 6e, ça concerne nos devoirs envers la vie humaine et la protection de la personne. Le 7e nous rappelle nos devoirs envers la sainteté de nos corps, du mariage et de la famille. Le 8e concerne la protection des biens. Le 9e concerne la protection de la réputation. Et on le trouve dans Exode chapitre 20, verset 16, qui nous dit « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Alors, ce commandement, comme les autres, enseigne un principe général et commande la vertu contraire. Alors, je trouvais cette observation-là dans le livre que je me sers. Il disait, c'est le péché qui nous fait ressembler au diable lorsqu'on le pratique. Alors, Jean 8, 44, qui dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. » Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et on sait que le commandement, ici, nous dit de ne pas porter de faux témoignages contre ton prochain. Donc, quand on porte un faux témoignage, ça le dit, on dit du mensonge. Donc, c'est un péché, c'est vrai, qui nous fait ressembler au diable. Alors, comme croyant, nous devons savoir l'énorme pouvoir de la langue. Par exemple, on lit au chapitre 18 du livre des Proverbes, au verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça dans vos vies. Personnellement, je l'ai expérimenté. Et c'est vrai que dans ce qu'on dit, ça peut avoir une énorme influence pour le bien, comme ça peut avoir une énorme influence sur le mal. C'est vrai que le verset est exact. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, si on connaît le pouvoir de la langue, ça peut nous aider à construire, comme ça peut nous aider à avoir bien des problèmes et à détruire. Également, le chapitre 15 du livre des Proverbes, au verset 4, ça nous dit « La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. » On a également d'autres observations sur le pouvoir de la langue dans l'épître de Jacques, dans le livre de Jacques, au chapitre 3, les versets 8 à 10. « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. » Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Quand on étudie ce passage-là, il y a quelque chose de décourageant en le lisant, parce qu'il dit que par notre bouche sort le mal et sort le bien. De l'autre côté, elle nous dit aussi qu'on ne peut la réprimer. puis on ne peut pas on ne peut pas la contrôler. Donc, à quelque part, il faut se poser la question, si on ne peut pas le faire, qui peut le faire? Alors, toute la réponse est vraiment dans le Seigneur, par l'Esprit de Dieu. Alors, nous, on ne peut pas le faire, mais Dieu peut le faire en nous. Alors, Matthieu, chapitre 12 aussi, versets 36 et 37. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Alors, on va regarder quelques commandements. Qu'est-ce que comprend le commandement? J'ai marqué le huitième, c'est le neuvième. Alors, ça comprend, bien entendu, la préservation et la promotion de la vérité. Éphésiens, chapitre 4, verset 25. « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Également, Proverbe, chapitre 31, verset 9. « Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Deuxième chose qui est requise par le neuvième commandement, la préservation de notre réputation et également celle d'autrui. 3 Jean 1, 12. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Alors ici, on voit que Jean donne un témoignage à un chrétien. Alors bien sûr, en écrivant ça à d'autres personnes, il préservait sa réputation. Non seulement il la préservait, mais il l'élevait. Proverbe 22, verset 1. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. Troisième chose qui est requise par le neuvième commandement, dire la vérité en matière de justice. Alors on a Jérémie, chapitre 9, verset 3. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Autre chose qui est requise, la charité pour couvrir les fautes. Proverbe chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Autre chose, se réjouir des dons et des grâces d'autrui. Alors on sait que le péché contraire, c'est que l'homme a tendance à être envieux et jaloux, alors que la parole nous commande qu'on se devrait de se réjouir des dons et des grâces d'autrui. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 et 5. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Autre chose qui est requise, le refus de recevoir des accusations non fondées. Souvent, on appelle la médisance, les calomnies, le sport des chrétiens. Souvent, j'ai entendu cette expression-là. Parce que souvent, quand des chrétiens parlent entre eux, dans l'intimité, ils vont dire des choses de d'autres qu'ils ne diraient pas devant la personne. Alors, des fois, on peut recevoir des accusations des autres qu'on ne devrait pas recevoir. Psaume 15, versets 2 et 3. « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. » Et dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 19, « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. » Alors, si quelqu'un va voir une autre personne, puis il porte une accusation contre un pasteur, on ne devrait jamais recevoir cela sans que la personne soit capable de démontrer qu'elle a des témoins. parce que c'est ça que ça dit, sur la déposition de deux ou de trois témoins. Alors, on ne devrait même pas recevoir ça. Je me souviens très bien d'avoir vécu ça à quelque part, un chrétien qui est venu me dire « Ah, dans telle église, c'est passé telle affaire. » Puis là, c'est drôle, ce verset-là me montait à l'esprit, mais j'ai dit « As-tu des témoins? » Il dit « Non. » Ben, je lui ai dit « À ce moment-là, la parole te dit, tu ne devrais même pas dire ça aux autres. » Et il a dit « Oui, tu as raison. » Des fois, quand on se fait la parole, nous rappelle nos devoirs, ça nous corrige. Aussi, le découragement, des flatteries, des médisances et des calomnies. Je me souviens quand j'étais jeune, il nous demandait le vendredi, pas c'était le premier vendredi du mois, il nous demandait quand on était au primaire de faire un examen de conscience qu'il appelait. Là, il nous faisait mettre la tête sur le bureau. Puis là, pendant une demi-heure, il nous parlait de toutes sortes de péchés. Puis là, après ça, on partait et on allait se confesser à genoux en face des curés qui venaient au collège avec Mégantic. Puis je me souviens, des fois, je confessais les médisances et les calomnies au prêtre, puis je ne savais même pas que c'est quoi ça voulait dire. S'il m'avait dit, c'est quoi ça de médisant, j'aurais dit, ben, je ne sais pas. Alors, on s'accusait de péchés qu'on ne savait même pas. Probablement que j'en avais fait, des calomnies et des médisances. Mais dans ma tête, c'était juste des mots. C'était pas vraiment une situation bien vivante que j'avais vue dans mon esprit. Alors, Proverbe, chapitre 11, verset 13. « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, et celui qui a l'esprit fidèle les garde. » Alors, on rappelle la différence entre une médisance et une calomnie. Une médisance, c'est parler, rapporter de quelqu'un quelque chose qui est vrai. Tandis qu'une calomnie, c'est de dire de quelqu'un quelque chose qui n'est pas vrai. Mais l'un n'est pas mieux que l'autre. Parce que des fois, quelqu'un peut dire « Ah, ben j'ai dit ça, puis là, si tu vas y faire le reproche qu'elle a dit ça, ben quoi, c'est vrai. » Alors, est-ce que le fait que c'est vrai, ça t'autorise à le dire? C'est ça qui est la question. Proverbe 26, versets 24 et 25. « Par ses lèvres, celui qui est se déguise. » Et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a sept abominations dans son cœur. Le psaume 101, verset 5, « Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » Alors on voit que le Seigneur est sévère là, pour les calomnies, dire... de détruire la réputation de quelqu'un. Le Seigneur a dit, je l'anéantirai. C'est quand même pas des mots. Autre chose qui est requise par le 9e commandement, tenir nos promesses légitimes. Psaume 15, versets 3 et 4. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Ça, c'est vraiment une observation qu'on peut faire de nos jours. Il semble que ce soit une pratique très répandue, que les gens n'ont plus de parole. Ils vont dire quelque chose, c'est pas nécessairement une promesse, mais ils vont dire quelque chose, ils n'ont pas de parole, autrement dit. Les Écritures nous disent bien ici... Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Quand on fait une promesse à quelqu'un, même si ça nous apporte un préjudice de l'accomplir, on se doit de le faire quand même. Anciennement, on disait des vieux qu'il l'a dit, sa parole c'est comme de l'or. C'est quand il l'a dit, il l'a dit. Mais aujourd'hui, le monde, alors on voit qu'on a besoin d'écouter ce que la parole nous enseigne. Le deuxième aspect qu'on va regarder dans le 9e commandement, bien entendu, il y a des choses qui sont requises, mais il y a aussi des péchés qui sont défendus par le même 9e commandement. Alors, bien entendu, la première chose qui est défendue, ce sont les préjudices à notre réputation et à celle d'autrui. Luc 3, verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Donc, les préjudices à notre réputation et à celle d'autrui. Aussi, le mensonge dans les procès. C'est aussi aujourd'hui, quand on regarde, par exemple, les procès, les grands procès qui se passent de nos jours, les personnes qui se présentent à la barre, là, on voit que la vérité n'est pas toujours sur leurs lèvres. Lévitique, chapitre 19, verset 15, « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre, tu ne favoriseras pas la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Alors, c'est pas... La Bible nous commande d'avoir une justice à une vitesse, et non pas la justice à deux vitesses, une justice pour les pauvres, une justice pour les riches. Troisième péché qui est défendu, la production de fausses preuves. Proverbe, chapitre 19, verset 5, « Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. » Quatrième chose qui est défendue, la subornation de témoins. Autrement dit, c'est de payer des faux témoins, payer des gens pour qu'ils disent des mensonges. Acte 6, verset 13, « Ils produisirent de faux témoins qui dirent, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Alors, la subornation de témoins, c'est un grave péché. Aussi, cinquième péché qui est défendu, des sentences injustes. Proverbe, chapitre 17, verset 15, « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Autre chose qui est défendue, « Appeler le bien mal et le mal bien. » Ésaïe, chapitre 5, verset 20 et verset 23, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. » qui change les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur, et la douceur en amertume, qui justifie, verset 23, qui justifie le coupable pour un présent, et enlève aux innocents leurs droits. Autre péché défendu, la malhonnêteté dans les transactions commerciales. Alors, on vit à une époque aujourd'hui où c'est très répandu, malheureusement. Luc 16, versets 6 et 7. « Sans mesure d'huile, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Et il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » « Sans mesure de blé, répondit-il, et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Autre chose qui est défendue, cacher la vérité. Lévitique, chapitre 5, verset 1. Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, péchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Autre chose, bien entendu, le mensonge. Colossiens, chapitre 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alors, les Écritures nous apprennent que le mensonge, c'est une œuvre du vieil homme. Autre chose, autre péché défendu, parler contre son prochain et son frère. Psaume 50, versets 19 et 20. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Autre péché défendu, la vantardise. Romains 1, verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Autre péché, surapprécier ou déprécier les autres ou nous-mêmes. Alors, Luc 18, verset 9 à 11. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes en ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. » Alors, on voit qu'il y avait une tendance à déprécier les autres et il y avait une tendance à se surapprécier. Exode, chapitre 4, verset 10. Et verset 14, Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-dedans de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » Alors ici, on voit Moïse qui se déprécie lui-même. Et ça, l'effet que ça fait, c'est que la colère de l'Éternel s'enflamme contre lui. L'aggravation des fautes, un autre péché. Matthieu 7, verset 23. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Autre péché, cacher, excuser ou atténuer les péchés. Alors, on a l'exemple dans Genèse 3, versets 12 et 13. « L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, j'en ai mangé. » Alors, on voit la tendance de l'homme à toujours cacher et à toujours porter la faute sur autrui. C'est pas moi, c'est l'autre. Toujours l'autre. Autre péché, découvrir les péchés d'autrui sans nécessité. Proverbe 25, verset 9. « Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. » Autre péché défendu, les fausses rumeurs. Excusez, j'ai pas mis le verset. On va être corrigé sur l'autre feuille. L'autre, soupçonner le mal. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Alors, c'est dans le cadre du chapitre 13 qui parle de la charité ou de l'amour. Que ça nous dit, « Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. » Alors, on est tous portés un peu à ça. Dès qu'on voit une situation, on est porté à l'interpréter et à lui donner le sens qu'on croit que ça veut dire, alors que ce n'est pas toujours le cas. N'importe qui a de moindrement d'expérience de la vie, c'est ça. Parce qu'on a, on a tendance, si les Écritures nous disent de ne pas soupçonner le mal, c'est très certainement parce qu'on a la tendance naturelle de le faire. Aussi, être attristé du crédit donné à autrui. Matthieu, chapitre 21, verset 15. « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David! » Alors que le peuple reconnaissait Jésus-Christ comme le fils de David, donc comme le Messie, les sacrificateurs et les scribes étaient indignés à ces choses-là. Ils étaient attristés du crédit qu'on donnait à Christ lui-même. Et ça peut être aussi non seulement pour Christ lui-même, mais tous les hommes, quand on voit que du crédit est donné à un autre et que ça évoque en nous de la jalousie ou de l'envie, c'est très certainement très mal. Se réjouir du malheur d'autrui. Jérémie, chapitre 48, verset 27. Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie? Avait-il donc été surpris parmi les voleurs pour que tu parles de lui qu'en secouant la tête? Et je me souviens qu'il y en a un aussi dans le livre des Proverbes qui dit que quand on se réjouit du malheur d'autrui, le Seigneur peut se retourner contre nous. Alors, j'ai mis trois applications. Bien sûr, on pourrait en mettre beaucoup plus que ça avec le neuvième commandement de Dieu. Le premier, implorons le Seigneur de nous conscientiser sur le pouvoir de la langue, qui est de construire ou de détruire. Demandons-lui d'aimer la vérité, d'haïr le mensonge, d'éviter les médisances et les calomnies, de tenir nos promesses et de ne pas recevoir des accusations non fondées ou sans témoin. Deuxième application, rappelons-nous que les manquements au neuvième commandement de Dieu nous font ressembler au diable. Troisième application, assaillons le trône de la grâce quotidiennement pour demander des grâces prévenantes dans l'accomplissement de ce qui est requis par le 9e commandement et pour éviter les choses défendues par le même commandement. Oui. Que notre grand Dieu soit béni, loué et adoré éternellement.
Amen.
Amen.